Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral, il est l'heure de notre magazine régional et cette année, novembre 2025, marquera la 18e année du mois de l'économie sociale et solidaire. Durant tout le mois, les acteurs de l'ESS font vivre cet événement partout sur le territoire en organisant une multitude de rendez-vous, des portes ouvertes, des visites d'entreprises, des conférences, des forums, des ateliers, des formations, etc. Née en novembre 2005, en région PACA, l'initiative s'étend à toute la France et la campagne est animée en région par les chambres régionales de l'ESS, les CRES. Parmi ces initiatives, la 4e édition des Assises de l'économie sociale et solidaire dans les Alpes de Haute-Provence. L'année dernière, les Assises avaient lieu à Manosque et cette année, les Assises reviennent à Digne-les-Bains puisque c'était le cas donc de la première et de la seconde édition. Cette année, ce sera donc à Digne-les-Bains au Palais des Congrès, mardi 4 novembre, de 14h à 19h. Pour nous en parler plus en détail, j'accueille aujourd'hui Jérôme Martinez, président de la délégation départementale CRES 04. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Tiffany.
Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur l'économie sociale et solidaire ? Peut-être revenir un petit peu sur ce mode d'entreprendre. Quelles sont les particularités de l'économie sociale et solidaire ?
Eh bien, merci de rappeler que tout ça arrive dans une séquence où il est important de promouvoir l'ESS et tout ce qu'elle apporte au territoire, hein, avec des actions concrètes. Donc, l'économie sociale et solidaire, comme son nom l'indique, elle s'est structurée autour d'une loi, on appelait ça la loi Hamon 2014. C'est le mouvement juridique qui représente l'ensemble, alors je parle surtout pour la CRES, des associations, des mutuelles, des coopératives, mais aussi de toutes les entreprises qui poursuivent un but d'utilité sociale, donc j'ai dit aussi les fondations. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre autrement. Donc les principales caractéristiques, c'est, comme je le disais à l'instant, de poursuivre un but social autre que le partage des bénéfices, mais aussi un second critère qui, et ça c'est important hein, à nos yeux, une gouvernance démocratique et participative. Donc ce sont généralement des emplois qui sont nés d'autres non délocalisables, qui sont nés vraiment d'un besoin social mal satisfait par ou la sphère publique ou l'économie classique. Et donc, ce sont des emplois qui ont un fort ancrage territorial. On les retrouve dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, l'alimentation, le domaine de l'assurance, le social, bien sûr. L'insertion, les commerces de proximité. Bref, on a un ensemble de panels d'activités fortement représentés dans le département. D'un mot, et je m'arrêterai là, c'est rappeler qu'il y a un véritable dynamisme dans le développement économique de notre département, puisque un emploi sur cinq de l'économie privée relève de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire en gros un peu plus de 6000 emplois et 950 entreprises.
Pour revenir sur les familles juridiques que vous citiez, donc l'ESS réunit 5 familles juridiques, les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises sociales. Voilà, tout ça pour se mobiliser, pour mettre l'humain au cœur de l'économie, répondre à de grands défis. Alors, au milieu de tout ça, quel rôle joue la CRES, donc la chambre régionale de l'ESS?
Alors, premièrement, comme je le disais, c'est un rôle de représentation auprès de l'ensemble des acteurs institutionnels, mais c'est aussi un rôle d'animation, de promotion et d'accompagnement aussi des porteurs de projets, mais aussi des entreprises qui veulent changer d'échelle. Donc, c'est de la recherche de financement. Il y a aussi des opérations qui sont fortement soutenues par la région sud autour de mon projet d'entreprise. Donc, on a énormément contribué à créer des entreprises diverses et variées. Voilà, information, orientation, accompagnement, voilà les grandes missions de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire.
Et parmi les temps forts proposés par la CRES, il y a notamment donc ces assises de l'économie sociale et solidaire. C'est la 4e édition cette année en 2025. Donc je rappelle que la première et la seconde édition ont eu lieu à Digne-les-Bains. Et l'année dernière, c'était à Manosque, avec le thème de l'égalité femmes-hommes, l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et cette année, il y a également un thème qui est mis à l'honneur, c'est « Bien vieillir à domicile », un défi donc à relever ensemble. Est-ce que vous voulez dire quelques mots de ce thème ?
Oui, oui, parce que en définitive, maintenant, il y a aussi une satisfaction personnelle, puisque cette 4e édition montre que nous sommes inscrits dans l'agenda départemental, donc c'est devenu un rendez-vous incontournable. C'est vraiment une journée de rencontres à destination des entrepreneurs, des dirigeants, des salariés d'entreprise de l'ESS, mais pas que. C'est vraiment aussi un moment où on essaye de créer des synergies avec d'autres acteurs locaux. Et aujourd'hui, je ne cache pas ma réelle satisfaction parce que si on a des partenaires historiques, eh bien, comme effectivement l'ensemble des EPCI, que ce soit des collectivités comme le département et les différentes collectivités, que ce soit Provence-Alpes-Aglo, que ce soit des LVA, que ce soit la communauté de communes Sister René-Buech, CCAPV, bref, ces communautés nous font confiance. Il y a aussi des partenariats qui se créent notamment avec les chambres consulaires. Et cette année, nous co-organisons cette 4e édition avec la Chambre des métiers et de l'artisanat et Provence-Alpes-Aglo. Donc le choix s'est porté sur un sujet qui est un vrai enjeu, je dirais, social, hein, puisque nous avons une particularité dans le département, c'est que plus d'un tiers de la population a 60 ans, hein, c'est-à-dire exactement 34,2%, bien au-delà de la moyenne en région Provence-Alpes-Aglo d'Azur qui est de 28%. Et on a souhaité avec nos partenaires se pencher sur les solutions concrètes du bien vieillir à domicile parce que avec les projections démographiques, on sait qu'il va y avoir d'ici 2050 encore plus de personnes âgées qui malheureusement auront des problématiques de dépendance et de perte d'autonomie. Donc il n'y aura pas une famille qui ne sera pas épargnée. Et dans des départements ruraux, il faut véritablement qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on crée des solutions pour répondre au bien vieillir à domicile donc, sur notre territoire.
Donc l'objectif de ces journées, dans ce cadre-là, ça va être quoi ? Ça va être de faire de la mise en réseau, peut-être de donner de la visibilité aussi aux entreprises de l'ESS ?
Tout à fait. Sur la question du rôle de l'ESS sur, je dirais, l'action sociale, c'est sûr qu'il y a une forme de légitimité. Je pense notamment à tout ce qui concerne les services à la personne. Hein. On aura tout à l'heure, si on a le temps, de revenir sur les exposants. Mais je crois qu'on a une vraie pertinence là-dessus. Hein. Sur comment maintenir l'autonomie, la qualité de vie. On va certainement à cette occasion évoquer aussi des problématiques autour de l'amélioration du logement parce que, encore une fois, la première chose auquel on est confronté quand on perd de la mobilité, c'est l'amélioration et l'aménagement de son logement. Donc on verra un petit peu quelles sont les grandes questions auxquelles on va se confronter. La mise en réseau est importante. Je dirais que il y a deux grosses questions qui vont être posées, c'est comment financer et mettre en œuvre l'adaptation des logements pour garantir un habitat sûr et confortable, hein, et comment justement l'ensemble des acteurs peuvent agir en synergie pour un habitat innovant et durable. Ça va être une première table ronde. Hein. Et la deuxième table ronde va être surtout centrée sur comment on organise un maillage territorial pour garantir un accompagnement global et coordonné des seniors sur notre territoire où l'accessibilité aux services est complexe. Et comment donc on va trouver des modèles d'innovation pour lutter aussi contre l'isolement et renforcer l'autonomie des personnes âgées.
Alors vous parlez de table ronde, comment elle va s'organiser un peu cette journée ? On peut aborder un peu des aspects plus pratiques. Il y a des conférences, est-ce qu'il y a une remise de prix comme les années précédentes ? Comment ça va se mettre en place ?
Tout à fait. Donc nous avons une inauguration, donc en tout cas un lancement à partir de 14h. Une première séquence, et je les en remercie, les partenaires du service public de l'emploi, que ce soit France Travail, mais aussi aussi Mission Locale et Cap Emploi vont organiser pendant une heure et demie donc un forum métier. Ça, c'est très très important, hein. C'est pour montrer qu'il y a aussi de l'emploi, des besoins, et donc employeurs-employés, en tout cas ceux qui recherchent aussi du travail, demandeurs d'emploi, auront un temps organisé pour eux. Et ensuite, après les temps, on va dire, d'inauguration par nos partenaires, que ce soit l'État, la région, le département, mais aussi la Massif, le Banque des Territoires et bien sûr la CRES, après ce temps inaugural, il y aura une première conférence par le directeur général de France Silver Economy, donc ECO, Mathieu Alapetite, qui viendra nous resituer les défis à relever autour donc de ce sujet. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, viendront dans la foulée deux tables rondes. L'une donc autour de l'habitat adapté au bien vieillir en bonne santé, avec comme grand témoin représentant de l'État, responsable de l'unité ANA à la DDT 04, et donc tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat, Manua Schuft. Il y aura aussi des intervenants, donc le président de Logia 04, mais aussi une entrepreneuse de l'entreprise Tamietti, Johanna Tamietti, qui sera là pour témoigner un petit peu de la réalité et des questions et des problématiques auxquelles elle est confrontée. Donc ça sera une première table ronde. Et la deuxième table ronde, donc là, cette fois-ci, le grand témoin, ça sera le conseil départemental 04, en la présence de Stéphanie Colombero, qui est vice-présidente déléguée aux affaires sociales et solidarité, qui viendra donc exposer justement le rôle du département sur l'accompagnement pour bien vieillir à domicile. Et nous aurons donc trois témoignages. Emmanuel Feldman, délégué à l'URSSAF PACA, Frédéric Rodriguez, directeur du Gérontopole, et Martine Vinatier sur tout ce qui concerne la prévention santé par la mutualité française Sud. Et nous terminerons donc la journée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'abord par une conclusion faite par Romain Gano, qui est directeur général de Silver Valley, pardon, et puis la remise du prix ESS 04. Donc il faudra attendre encore jusqu'à 18h20 pour connaître le nouveau lauréat. Mais c'est un temps fort parce que ça nous permet de mettre en avant une initiative remarquable du territoire. Et l'après-midi se terminera par un temps donc de convivialité, mais d'échange, de mise en réseau. Je rappelle quand même, et ça c'est très important, c'est que c'est un événement qui est ouvert au grand public. Ce qui veut dire que, à côté de ces tables rondes, il y a ce qu'on appelle le village des solutions, c'est-à-dire qu'il y a 35 exposants qui travaillent autour du bien vivre, du bien vieillir à domicile. Et donc, vous aurez la possibilité, le grand public, confronté peu ou prou par ces problématiques, l'occasion d'avoir des solutions et des réponses à de nombreuses questions. Donc, c'est bien de pouvoir avoir à proximité les acteurs autour de cette filière qui sont là pour vous apporter des réponses. Donc ça, c'est très très important pour avoir dans la même après-midi des réponses à des questions qu'on se pose tous.
Alors, ces exposants se sont déjà inscrits. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire si on est exposant? Et si on n'est pas exposant, simplement qu'on vient du grand public, comment ça fonctionne pour participer à la journée?
Eh bien, écoutez, c'est très simple. Le Palais des Congrès est accessible, il est ouvert à tous. Donc, bien sûr, l'entrée est gratuite. On aura donc malheureusement plus de place parce que il y a plus de 30 exposants, et donc je dirais qu'on a eu une réelle satisfaction de voir autant d'acteurs qui se sont proposés de venir tenir un stand. D'ailleurs, je crois savoir aussi que Fréquence Mistral sera présent sur site aussi pour faire un plateau radio. Mais on a un ensemble d'acteurs, donc il suffit de venir au Palais des Congrès, de pousser la porte, et on sera là pour vous accueillir, à la fois en vous donnant des éléments de réponse à vos questions sur les stands, et puis en vous offrant un certain nombre de conférences.
Oui, donc plus de place si on veut proposer un stand, mais évidemment, pour le grand public, les portes restent ouvertes, événement gratuit. Évidemment, oui, je précise que Fréquence Mistral sera présent sur place pour animer un plateau radio en direct de 16h à 17h. Donc l'équipe de Fréquence Mistral sera là avec des invités, une animation avec Charlie Divry, nouveau bénévole à l'antenne de Digne. Alors comment ça fonctionne si on veut venir? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'on peut venir spontanément? Donc vous l'avez dit, l'entrée est gratuite. Et c'est donc, on le rappelle aussi, sur l'après-midi. On peut venir à partir de 13h30. Est-ce qu'on peut venir en cours de route?
On peut venir quand on veut, quand on le souhaite. On peut sortir aussi quand on veut, quand on le souhaite. C'est ouvert à partir de 13h30 et par un accueil café. Et puis on termine par un moment de convivialité. Donc de 13h30 à 19h. Voilà, c'est vraiment un moment important parce que tous les entrepreneurs sont pris aussi dans leur mission. Et là, à un moment, on prend le temps et on se retrouve, parce que ça, c'est important, pour travailler autour d'un sujet et trouver des solutions durables. On est toujours plus efficace quand on met en place de la coopération territoriale, hein, quand on mutualise les compétences. Comme je vous le dis, c'est un sujet qui peut être, entre guillemets, grave, mais quelque part, le vieillissement n'est pas une fatalité, c'est plutôt aujourd'hui un projet de territoire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'économie sociale et solidaire en pourvoyeur d'emploi, ben là, on a une réalité. Donc, il y a effectivement un vrai projet à se pencher sur le sujet pour apporter des solutions et faire qu'on peut rentrer dans ce dernier âge de vie en se disant que les services sont maintenus, et puis on peut aussi se dire que ben, c'est de l'emploi aussi pour les jeunes. Donc un défi à relever ensemble, et puis vraiment de s'inspirer de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie de proximité au cœur des solutions durables.
Alors, parmi les enjeux ou les problématiques que cette journée se propose d'aborder, vous le citiez hors antenne, il y a la question du bien vieillir à domicile, certes, mais sans tomber dans un isolement social. Comment cette journée propose d'aborder ce genre de problématiques?
Alors, c'est très juste, hein, parce que si... je dirais plus de 80% des Français préfèrent rester à domicile en cas de perte d'autonomie. Il ne faut pas que ça se traduise par un isolement social. Je lisais là récemment le troisième baromètre donc qui a été réalisé par les petits frères des pauvres, qui seront présents d'ailleurs en tenir un stand. Ils tirent en quelque sorte la sonnette d'alarme, hein. L'isolement extrême des aînés explose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a 750 000 personnes qui sont âgées, qui sont aujourd'hui en situation de mort sociale. Donc, vous voyez un petit peu l'urgence sociale et politique. Hein. Et si rien n'est fait, ce chiffre pourrait dépasser le million d'ici 2030. Donc, on a besoin de relever ce défi ensemble. On a besoin de... échanger encore une fois les bonnes solutions et les bonnes initiatives. Par contre, je pense encore une fois que la question du financement, parce que ça fait des années qu'on en parle, hein, on ne découvre pas que la France est atteinte de vieillissement de sa population et encore plus dans les territoires ruraux. Sauf que là, maintenant, ça va devenir vraiment très compliqué si on ne fait rien. Et donc, il y a la question des moyens et du financement. Encore une fois, on se retrouve aujourd'hui en réelle difficulté. Je suis moi-même président d'une association ADMR du Pays d'Hinois et je peux vous dire qu'on a besoin d'un véritable coup de pouce et d'une revalorisation de la filière. C'est très difficile de maintenir effectivement des salariés. Il y a un turnover important et pourtant les besoins sont là. Donc il nous faut un programme ambitieux de financement. On parlait à une époque de la sixième branche de la sécurité sociale, mais je pense véritablement que sur la dépendance, on parle souvent de désert médical, mais il y a une vraie urgence sociale par rapport aux problématiques liées au grand âge, à la dépendance et à la perte d'autonomie.
Oui, là, les innovations qui pourraient être proposées, ce serait une dynamique d'aller vers. Est-ce que vous voulez revenir sur cette dynamique-là et peut-être également sur la plus en détail sur la liste des exposants pour cette journée ?
Oui, je pense que le Hall est vert, parce qu'il existe beaucoup. J'étais récemment encore aux 20 ans de l'accueil de jour, un travail formidable. Eh bien, en plus des personnes qui reçoivent à domicile, ils vont à domicile, c'est-à-dire qu'ils ont en gros un suivi de douzaine de personnes et ils vont encore au domicile de 10 autres personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de aller vers, de proposer des services hors les murs, c'est vraiment une voie de proximité qu'il nous faut vraiment creuser. Et on n'est pas que sur du service à la personne, hein, dans le sens, je dirais, médical, social. Il y a aussi tout ce qui concerne ce qui fait... je dirais notre quotidien, c'est-à-dire le loisir, la culture. On entend de plus en plus, certes, du portage de repas à domicile, mais il n'y a pas que ça. Je sais que la médiathèque de Digne fait effectivement du portage de livres, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, justement pour éviter cet isolement social, se questionner sur comment on mène à domicile des services que tout un chacun nous avions quand on n'avait pas ces problèmes de mobilité. Donc, là, il y a vraiment quelque chose à creuser, me semble-t-il. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des bonnes volontés, parce qu'on parlait de l'économie sociale et solidaire, mais il n'y a pas que des salariés dans l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi énormément de bénévoles. Si je prends le mouvement associatif, en France, il y a 12,5 millions de bénévoles. Sans ces bénévoles, on ne pourrait pas justement développer les missions de but d'utilité sociale. Je vois que de partout, il y a des initiative où il y a des visites de courtoisie, il y a des visites à domicile, donc il y a quand même une richesse importante à mobiliser. Il y a des salariés certes, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles pour qui tout cela a du sens.
Et parmi les innovations en question, alors est-ce qu'on pourrait dire quelques mots peut-être d'une Living Lab à Digne ? Quelle est cette initiative et en quoi elle essaye de répondre à la problématique du bien vieillir ?
Alors, il est vrai que c'est un dispositif que a mis effectivement réalisé Provence-Alpes-Agglomération, hein, puisque sur ce sujet, je profite au passage, puisque je ne les ai pas cités tout à l'heure, de remercier Madame Patricia Granet-Brunello, présidente de Provence-Alpes-Agglo, et puis aussi Stéphane Figuère, qui est président de la Chambre de métiers de l'artisanat des Alpes de Provence. Ils ont voulu sensibiliser le grand public sur des innovations nécessaires d'aménagement de l'habitat. Donc c'est un endroit qui doit être visité. On est vraiment sur des solutions innovantes et durables. Il y a des choses qui sont mises en place par plein d'acteurs. Aujourd'hui, il nous faut vraiment éviter de travailler en silo et de trouver de l'opportunité autour d'événements comme le nôtre pour vraiment partager, mutualiser. Et je sais que Madame Granet-Brunello, en tant que médecin, travaille sur le sujet depuis de nombreuses années et elle aura l'occasion, lors des prises de parole, de rappeler tout ce qui est fait en la matière par Provence Alpaglo. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ce dispositif qui est vraiment un dispositif qui est mené par Provence Alpaglo.
Très bien. Et concernant la liste des exposants, est-ce que vous vouliez revenir plus en détail sur les différents stands qui seront présents ?
Oui, parce que tout à l'heure, je parlais bien sûr de nos partenaires qui seront bien sûr présents. Je parle notamment du conseil départemental, mais on a la structure HALT qui travaille autour de la transition énergétique, qui sera là aussi pour répondre aux questions d'isolement, de rénovation énergétique. Donc ça, c'est très important. On aura des artisans aussi qui seront là, artisans plombiers, mais artisans aussi sur... l'isolement, sur tout ce qui concerne l'amélioration pour la sécurité dans les salles de bain, etc. Donc là, on aura une représentation de ces métiers-là. Comme je vous le disais, des associations comme l'ADMR, la Populaire, comme Domino, qui travaillent sur le service à la personne, seront présents. Il y aura aussi, bien sûr, tous les organismes qui s'occupent du social, hein, que ce soit le CCAS de Digne-les-Bains, mais aussi le CLIC 04. Il y aura le Centre médico-sportif 04, parce que quand on réfléchit au bien vieillir, il est aussi important de savoir que l'activité physique a aussi un rôle important. La Mutualité française sera là aussi parce qu'ils font bien des actions autour des actions de prévention autour du vieillir en bonne santé. Comme je l'ai dit, il y a les petits frères des pauvres, aussi Espoir aidant. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais évidemment, les personnes qui sont impliquées dans le bien vivre à domicile, ben, ce sont les familles. Hein, quand on n'est pas dans une situation d'isolement social extrême, ben, y a en tout cas un rôle important des aidants, et on a besoin aussi de les accompagner. Donc il existe des associations... d'aide aux aidants, donc qui seront présents. Il y aura bien sûr aussi des associations qu'on connaît comme Cœur Lavande, hein, qui fait beaucoup aussi dans la matière, parce que quand on parle de personnes âgées, on parle aussi des personnes en situation de handicap. Hein. Il y a donc un certain nombre de structures, je ne peux pas tous les citer parce que sinon nos auditeurs ils vont avoir la tête qui va bouillonner, mais il y a plus de 30 exposants, vous les découvrirez. Il y a aussi des services de soins infirmiers à domicile, sur des équipes spécialisées Alzheimer. Bref, moi je remercie tous ces partenaires parce que ils ont compris véritablement qu'il fallait pouvoir travailler ensemble autour de ce sujet pour pouvoir justement avoir une vraie feuille de route territoriale.
Et ce prix de l'ESS 04, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a un jury? C'est remis donc à une des exposants qui seront présents?
Voilà, alors c'est bien parce que tout à l'heure vous rappeliez que le mois de l'ESS avait été créé par la CRESPACA. On est toujours très innovant, et nous au niveau 04 on s'est dit bon, c'est très bien qu'il y ait un prix national, c'est très bien qu'il y ait un prix régional, mais l'ESS c'est une économie de proximité, et c'était bien aussi de mettre en avant ce qui se fait au niveau du 04. Donc c'est la quatrième fois qu'on remet effectivement un prix. C'est toujours autour de deux thèmes, utilité sociale ou transition écologique. Et donc, il y a un jury qui est composé d'acteurs avec qui on travaille depuis des années, qui examine des dossiers. On fait ça de manière très pro. Et donc, on a eu, il y a quelques années, le CDFF qui avait été effectivement lauréat. On a eu Sorénis aussi qui a un gros travail sur, je crois, Cerest autour d'habitat intergénérationnel qui avait été lauréat. On avait eu aussi Copilote ta vie à une époque. Bref, on avait aussi mis en avant, je me souviens, l'atelier partagé qui vient d'inaugurer ses nouveaux locaux. Voilà, là aujourd'hui, on parle beaucoup de sujets autour du bien vieillir à domicile, mais si on parle d'économie sociale et solidaire, il y a aussi un essor très important autour des ressourceries, autour de la gestion des déchets, de l'économie circulaire. Donc voilà, cette année, je ne peux pas encore révéler parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, mais ça sera certainement une structure qui existe sur le territoire depuis très longtemps et qui fait un travail remarquable autour de l'activité des entrepreneurs de l'ESS.
Ça existe depuis le début, cette remise de prix, depuis la première... Depuis les premières assises, où ça a été mis...
Alors, pour ce qui concerne les assises départementales de l'ESS, oui. Pour la région, oui. Pour le national, oui. Et d'ailleurs, si je me souviens, le CIDFF avait aussi eu le prix régional. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et donc, le CIDFF avait concouru au niveau national. Donc, c'est pour dire que, voilà, la réalité... elle se fait localement, et puis ensuite il y a des récompenses régionales, il y a aussi des récompenses nationales, et on en est très fiers.
Oui, le CIDFF qui devait être bien mis à l'honneur l'année dernière sur la thématique de l'égalité professionnelle femmes-hommes. L'année dernière, il y avait un forum, des ateliers. Est-ce que la formule des assises de l'ESS évolue d'année en année? Est-ce qu'on revient sur un schéma qui fonctionne bien et qu'on réutilise? Comment ça s'organise?
Je pense que c'est, comme on dit, avec l'expérience qu'on essaye chaque fois d'améliorer, mais c'est aussi avec nos partenaires. Là, cette année, nous avons eu aussi, dans les différents comités techniques, la CCIT qui nous a dit que c'était bien qu'on apprenne à se connaître et qu'on espérait l'année prochaine faire quelque chose avec eux. Donc, on est à l'écoute aussi des propositions. Là, cette année, les autres années, on faisait sur une journée. On a décidé pour aussi permettre à plus d'entrepreneurs de venir, de le faire sur une après-midi qui se termine en soirée. Donc on fera le bilan, on fera l'évaluation. La quadrature du cercle, c'est réussir à faire un événement pour les professionnels, mais aussi d'être ouvert au grand public. Moi, je le répète, sur un sujet autour du bien vieillir à domicile, c'est une occasion, une opportunité de venir nous voir. Venez nombreux parce que, véritablement, vous serez reçus et vous aurez certainement des réponses à vos questions.
Alors, on le rappelle, ce sera donc mardi 4 novembre 2025, l'après-midi, de 13h30 pour l'accueil, et ensuite donc de 14h à 19h. Le Palais des Congrès de la ville de Digne accueillera donc un forum des métiers, un forum des acteurs économiques, un village des solutions. Ces assises de l'ESS sont à destination des structures médico-sociales et de l'animation sociale, des acteurs économiques de l'habitat, des aidants, des demandeurs d'emploi, mais pas que. C'est évidemment ouvert au grand public. Est-ce qu'on rappelle quelques petites infos pratiques ? Donc, c'est gratuit.
C'est gratuit. On a effectivement énormément de partenaires de qualité qui vont bien resituer tous les enjeux, bien resituer tout ce qui est fait en la matière. Et je suis persuadé que l'après-midi va être agréable pour tous, que ce soit pour les professionnels, pour les grands publics. Encore une fois, je le répète, j'insiste, mais quand on est capable de se réunir autour de sujets aussi importants, la coopération territoriale nous permet quand même de faire des avancées très importantes. Le vieillissement n'est pas une fatalité, c'est un projet de notre territoire. Voilà quelle est notre ambition collective. Venez nombreux, on vous attend. Le 4 novembre au Palais des Congrès de 14h à 19h.
Eh bien, Jérôme Martinez, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, une question qu'on ne vous a pas posée, un point sur lequel vous voudriez revenir, des informations que vous n'avez pas encore données, ou est-ce que tout est prêt pour le mardi 4 novembre?
Écoutez, il ne manque plus que vous, c'est-à-dire vous, auditeurs, auditrices. Donc, encore une fois, nous avons une réelle satisfaction d'avoir organisé une édition supplémentaire des Assises départementales. Venez à notre rencontre. Derrière économie sociale et solidaire, il y a des personnes qui travaillent au quotidien sur le capital humain. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, merci Fréquence Mistral de nous avoir permis de valoriser, de promouvoir l'ESS et ses actions concrètes sur les territoires. Donc voilà, l'essentiel est dit. À très vite.
Et je rappelle que Fréquence Mistral sera donc présent sur cette demi-journée des Assises, 4e édition des Assises de l'ESS 2025, un plateau radio en direct de 16h à 17h. Merci Jérôme Martinez, président de la délégation départementale Grèce 04. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notez donc bien que les prochaines assises de l'ESS des Alpes de Haute-Provence reviennent à Digne-les-Bains ce mardi 4 novembre 2025 au Palais des Congrès de 13h30 à 19h. Et une excellente journée sur Fréquence Mistral.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.